Michel, notre deuxième partie de ce Radio Barque 34 prévoit que tu nous parles du rififi chez les Républicains.
Oui, c'est une information qui a été largement commentée dans les médias. Alors je vais pas répéter ce que ces médias ont rapporté de cette info, mais je vais tenter de donner mon contre-regard de certaine manière. Concernant Laurent Wauquiez, qui est devenu, qui est un bon produit, quoi. Hein.
Oui.
Laurent
Wauquiez est très médiatique. C'est Wauquiez versus Calmel.
Oh, oui, non, mais là, quand Wauquiez, c'est un bon produit médiatique. C'est-à-dire qu'à chaque fois que cet homme parle, s'exprime, ou entame une action, là, l'audience, le buzz est assuré. Et là, il a assuré puissance, je sais pas combien, quoi, hein, 30-40, environ, tout simplement, ça, de vice-présidente, qui était Madame Calmes, une proche de
Alain Juppé,
et exprimant à côté de Laurent Wauquiez le côté, disons, la version libérale, centriste libérale de l'ex-UMP.
Oui, versant un peu d'huile sur le feu quand même vis-à-vis de son patron.
Oui, évidemment. Non, c'est pour ça que, alors, personne s'est interrogé, sauf de voir quand même cette dame, elle a osé dire, publiquement à la radio, que, c'était Marine Le Pen ou presque, quoi. Donc, en tout cas, l'attaquant sur ces dérives extrême droitières, qui étaient pour elle insupportables.
Mais Front National ou Rassemblement National?
Rassemblement National maintenant, idem, quoi. mais là, en l'espèce, alors je me dis, mais voyons voir, les journalistes ne se posaient même pas la question de savoir pourquoi cette dame, qui n'est pas sotte quand même, qui est une dame intelligente,
on peut
quoi,
espérer, on peut
s'est exprimée publiquement d'une manière aussi forte, quoi, sur l'objectif réel qu'elle visait. Est-ce qu'elle voulait faire une petite pique à Laurent Wauquiez? Mais non, dans ce genre de circonstances, quand on est le patron de parti,
elle a voulu marquer.
Comme vice-présidente, une dame qui flingue son président. La sanction est immédiate. On ne peut pas imaginer une seule seconde que Laurent Wauquiez la rencontre, la fasse venir à son bureau, lui fasse la bise, il dit oui, t'as bien fait, bon, t'es toujours mal de tête. Viré. Et dans la foulée, comme par hasard, Alain Juppé envoie un petit message Virginie Calmes a fait preuve de grand courage, etc. Question. Alors, je me suis posé
une peau de banane supplémentaire.
Est-ce qu'il y a un hasard dans ces deux événements? Un, la sortie de Virginie Calmes. Deux, le soutien d'Alain Juppé. Et trois, le flingage par Laurent Wauquiez qui était inévitable, qui était tout à fait logique. Et je pose l'hypothèse, mais peut-être que je me trompe complètement, que, voyons voir, est-ce qu'il n'y aurait pas là le début d'une accélération, si je puis dire, d'un mouvement de rapprochement entre la fraction centriste libérale de l'ex-UMP, donc des Républicains, vers le mouvement En Marche, qui déjà existe à travers son Premier ministre, parce que les gens ont oublié.
N'est pas rien, quand même.
Et en vue des prochaines européennes, tout le monde est censé ignorer, aujourd'hui, que tous les états-majors politiques sont en train de se positionner et de s'organiser pour les prochaines
élections européennes
qui ont lieu en 2020, c'est-à-dire demain. C'est-à-dire demain. Et en effet...
En 2019, je crois. En 19.
Donc demain. Et d'autant que pour ce courant centriste libéral exprimé par Juppé et par Calmes, il est clair que... il est totalement inconcevable que de rester dans un mouvement, ou en tout cas d'être sur une liste, celle qui s'est conduite par Laurent Wauquiez, qui est considérée comme...
Savoir que Mme Calmel voulait être tête de liste des Européennes les Républicains, ce qu'on lui a refusé.
Évidemment, parce que la ligne politique qui sera conduite certainement par Wauquiez ou de ses proches
sera différente.
Celle du parti, c'est-à-dire celle de Laurent Wauquiez, à droite toute, et très critique à l'égard de... Donc, conclusion, pour que ce courant, de mon point de vue, continue à exister, il ne peut exister que dans un compagnonnage. Alors, est-ce qu'il sera programmatique et est-ce qu'il sera effectif dans la composition de la liste de La République En Marche, qui passe effectivement par cette participation à ce courant-là.
Le point d'interrogation.
Et qui m'amène à la conclusion suivante, mais qui est d'une banalité extrême, à savoir que la poutre, c'est une image, la poutre de la restructuration de l'offre politique dans notre pays travaille toujours, quoi. C'est-à-dire qu'autant
on entend les craquements.
Autant du côté droite républicaine que du côté gauche, mais là on n'entend même pas d'ailleurs, on te parle la poutre monte tellement elle a l'épaisseur d'une paille, quoi. Si je puis dire aujourd'hui. Donc là, on a Conclusion, on n'a pas fini effectivement d'assister encore à des mouvements de ressources.
Très bon, ça sera de la matière pour les prochains radios.
Conclusion, voilà. L'offre politique n'a pas fini effectivement de nous surprendre en fait dans sa reconstitution, dans sa restructuration.
Le RSA et le bénévolat, qui étaient, ça rime, mais c'était interdit de les jumeler, paraît-il. Or, dans le Haut-Rhin, ça va se faire.
Oui. Alors, nos auditeurs ne s'en souviennent peut-être pas, mais lors de la dernière émission, j'avais chroniqué sur la possibilité d'une expérience qui, de toute façon, ne pourra pas effectivement se faire.
De base, enfin,
des 13 présidents de socialistes de département qui souhaitent expérimenter un revenu dit de base, qui, je rappelle très rapidement, serait l'agrégat de 2 ou 3 aides qui aujourd'hui sont distribuées par les CF, enfin,
oui.
Les CAF.
Sauf que beaucoup de gens le comprennent comme un revenu universel.
Ce que j'avais expliqué dans la chronique précédente. Donc, je renvoie.
Avec beaucoup de démagogie, on fait pas croire que ça serait un revenu universel. Et forcément, beaucoup de gens sont pour, ils l'attendent.
Donc, je renvoie nos auditeurs à mon blog, ils auront à la chronique précédente, en fait, écrite et parfaitement explicite sur ce revenu de base. Voilà. Donc là.
Mais là, il apparaît que lorsqu'on perçoit des aides sociales, on peut être amené à donner quelque chose en échange.
Alors je reviens quand même un peu en avant, Jean-Claude, c'est que j'apprends quelques jours après, d'avoir chroniqué sur ce sujet, que le Conseil d'État avait cassé des décisions du tribunal administratif de Nancy ou de
Du Haut-Rhin,
et de la Cour d'appel. Décision de ces deux instances de base de la juridiction administrative de notre pays qui avait cassé les décisions, les arrêtés du président du Conseil général du Haut-Rhin de l'époque,
qui avait institué
effectivement un dispositif, donc une expérimentation, si je puis dire, avant la lettre.
Une autre expérimentation.
Qui obligeait, obligeait en fait, les allocataires du RSA à faire un temps de bénévolat minimum. Le Conseil d'État casse effectivement ces deux décisions.
Il dit niet,
et surtout il dit positivement que rien n'interdit, à la condition que le contrat soit personnalisé et non obligatoire, à ce qu'une personne bénéficiant du RSA, dans la mesure où elle est dans une logique d'insertion professionnelle et de chemin vers un travail, soit effectivement en situation d'exercer un temps de bénévolat défini par un contrat.
Voilà.
Innovation juridique tout à fait étonnante. Et qui m'a ramené à l'époque où cette expérimentation avait été tentée par le président du Conseil général, dont la délibération avait été attaquée et annulée par le préfet et par la Cour d'appel, et qui avait soulevé un tollé quasi général en France de la part de toutes les institutions, notamment départementales présidées par la gauche,
et par
toutes les associations qui, peu ou prou, sont dans ce secteur et travaillent effectivement à l'insertion professionnelle des bénéficiaires du RSA, entre autres, au motif qu'il était scandaleux que de mettre en rapport un temps de travail bénévole dans une association avec une allocation qui, elle, est universelle et de toute façon assortie à un bénévolat quelconque.
Autrement dit, il était scandaleux quand on reçoit quelque chose de donner en échange.
En tout cas, ce qu'il y a de
pour
clair.
Pour simplifier les choses.
En tout cas, ce qu'il y a de clair, c'est que si au plan moral, chacun peut porter un jugement sur ce genre de questions, la plus haute juridiction administrative de l'État français, aujourd'hui, autorise les présidents d'une manière tout à fait légale et non contraire à la Constitution, le fait de proposer un contrat que le bénéficiaire peut accepter ou pas, qui, de chemin vers l'insertion professionnelle, qui passe par un temps de travail, entre guillemets, bénévole dans une association définie avec les parties, c'est-à-dire le Conseil général et la personne, et à la condition, encore une fois, j'insiste, que ce soit dans une direction des insertions professionnelles. Donc là, on a fait Jean-Claude, laisse-moi terminer. Un tabou à sauter, tabou psychologique et politique.
Reste à voir
comment ça va se traduire dans les autres départements. En tout cas, ce que je peux te dire, c'est que j'ai eu des réactions privées de personnalités qui président certaines associations du département de l'ordre qui travaillent à l'insertion professionnelle avec des allocataires, scandalisées.
Oui, bien entendu.
Le plus droit, d'ailleurs, entre parenthèses, c'est un président d'association qui a en stock, si je puis dire, en flux, des allocataires du RSA et qui considère que proposer à ces allocataires de faire du bénévolat dans un chemin d'insertion, c'était moralement scandaleux parce que c'était suspecté, effectivement, les bénéficiaires, hein, de bénéficier de nos revenus et de ne rien en fait, c'est les culpabiliser d'une certaine manière en les obligeant à faire du bénévolat.
Oui, oui, enfin, on est
encore.
Ce qu'on disait tout à l'heure dans la contradiction la plus totale, on veut tout, le contraire de tout. Et je rappelle quand même que le RSA est un successeur du RMI qui voulait dire à l'époque revenu minimum d'insertion et qui apparemment n'a jamais inséré grand monde.
Conclusion, en fait, Jean-Claude, le droit, en fait, permet ce genre d'expérimentation.
Voilà.
Reste à savoir quel nombre de départements vont prendre l'initiative d'expérimenter, voilà, pour en arriver toujours dans l'expérimentation, ce genre, effectivement, de proposition.
De l'appliquer.
Je doute fort que nos départements, et le nôtre en particulier, suivent ce genre d'expérience-là.
Non, mais là, on ne l'avait pas envisagé, et l'on marque une deuxième pause, après quoi nous retrouvons notre invité, Patrick Milani.